juin 2050. Il fait 31 degrés à Marseille, 28 à Paris, 25 à Troyes dans le Grand Est, où vivent et travaillent Anita, Zina et Mathias. En ce début de décennie 2050, la France est en train d'atteindre la neutralité carbone et fait partie, depuis le courant des années 2030, des pays pionniers de la transition écologique et sociale. Les inégalités sociales ont drastiquement diminué, l'égalité salariale femmes-hommes est désormais une réalité, et de nouvelles législations ont réduit la durée de travail hebdomadaire, valorisé le travail non marchand et garanti aux salariés le droit d'alerte et le droit d'alternative. Tout va-t-il pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Voici trois histoires de vie et de travail, d'ici et d'ailleurs.
Bonjour.
Bonjour.
Anita ?
Oui, oui, c'est mon bureau. Je m'appelle Anita Primavera, j'ai 59 ans, je suis née en 1991. Je suis comptable, je viens d'Aix, je vivais dans le sud en fait, et en 2030, j'en ai un peu marre. Mes enfants étaient tout le temps malades, mon fils en particulier, il faisait des crises d'asthme à répétition. Moi, je m'en sortais pas avec la chaleur, avec le temps qu'il faisait, bref. Il y avait une offre d'emploi sur la ville de Troyes, dans le nord-est de la France, dans l'Aube. Et j'ai sauté dessus parce que ça correspondait à ce que je sais faire. Cette association, ça s'appelle Réseau Demain Solidarité. Elle accueille des migrants intérieurs et des migrants de l'étranger, des migrants climatiques notamment, et elle organise leur hébergement, leur insertion, elle les aide à faire des démarches administratives, à trouver du travail. Ouais. C'est une grosse association qui a plusieurs ramifications. Il y a, par exemple, on est très connu pour nos ateliers de réparation, mais il n'y a pas que ça. L'association fait aussi de la distribution de repas, et fait travailler les locaux et les étrangers. Le parcours de ces migrants climatiques me rappelle un petit peu le mien, hein. Même si moi j'étais en France, mais quand même il a bien fallu que je m'adapte à cette nouvelle ville, à ce nouveau climat, à chercher du travail, voilà. Et alors il y a une partie des personnes qui font fonctionner les ateliers, qui sont des salariés, voilà, classiques, mais il y a aussi des bénévoles. Si tout ça est devenu possible, c'est depuis cette loi d'il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus, 2033 ou 2035, je ne sais plus trop, et cette loi du temps libéré, tout le monde se souvient de la réduction du temps de travail à 28 heures, mais ça s'accompagne aussi du fait que le bénévolat compte pour la Sécu. Et donc, ils s'investissent en faisant du travail non marchand dans nos structures. En fait, cette loi, elle valorise le travail non marchand. Et nous, dans cette association, Réseau Demain Solidarité, on est tout à fait au cœur de ça. Ce qui s'est passé, la cassure en fait, c'est en fin d'année 2048, ouais, je n'ai pas compris pourquoi tout d'un coup on me dit il n'y a pas de budget pour acheter les cadeaux de fin d'année pour les enfants. Alors, moi, j'ai rien compris parce que en tant que comptable, moi, je vois passer les sous. Par contre, je ne comprends pas que l'argent produit dans ces structures où travaillent les migrants n'est pas réinjecté dans l'association. Et en creusant, je me rends compte que, ça se confirme, il y a bien de l'argent qui sort de ces structures, qui vient bien du travail des migrants, mais qui est accaparé par des personnes à la tête de l'association. Voilà, trois personnes, plus précisément. Donc évidemment, c'est une bombe, quoi. Et je me dis, mais j'ai mis le doigt dans quoi ? Est-ce que je me trompe ? Est-ce qu'il y a vraiment des malversations ? Je ne sais pas trop quoi faire, en réalité. fait appel à une personne avec laquelle j'avais l'habitude de travailler dans les services de l'État, qui m'a tout de suite dit « Stop, tu vas tout de suite t'adresser à la maison des lanceurs d'alerte », que je ne connaissais pas. Ça permet d'être protégé, sans que sa vie soit complètement cassée, parce qu'on a mis à jour un dysfonctionnement. Heureusement que la loi a changé et que les lanceurs d'alerte ont un statut qui les protège, ce qui n'était pas le cas avant. Je ne me suis pas sentie toute seule, isolée, je n'ai pas été obligée de me mettre en arrêt maladie pour me protéger. Mes collègues ont bien compris et ils sont solidaires avec moi et tout le monde y croit. En fait, trois personnes ont commis des malversations. Mais le réseau existe toujours, fonctionne toujours, et on y croit tous. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire, quoi. Et l'association, moi, ce que je voudrais, c'est que l'association reprenne sa place, se développe encore plus, et que ça fasse partie du passé, cette histoire de malversation. Et puis moi, en tant qu'individu, je vais avoir 60 ans bientôt. Et donc, je pense à ma retraite et j'y pense vraiment sereinement. Parce que les autorités ont pris le relais.
À la une de ce mardi 7 juin 2050, le réseau Demain Solidarité dans la tourmente, une note interne révèle que le travail de bénévoles, dont des exilés climatiques, a servi à générer des profits. La lanceuse d'alerte n'est autre que la comptable de l'association qui a décidé de rendre publique cette affaire, faute d'avoir pu être entendue par sa direction. Le procureur de Troyes se saisit du dossier. Et puis une page de sport en fin de journal, à quelques heures de la finale de la Ligue des Champions, qui opposera tout à l'heure le Red Star de Saint-Ouen au Dynamo Kiev, la Seine-Saint-Denis et la capitale ukrainienne. Voilà deux clubs que personne n'aurait vu arriver à ce stade de la compétition il y a quelques années encore.
Bonjour Vina, alors c'est pour bientôt ?
Ah mais oui, justement la commission m'a appelé, dans une semaine j'aurai la réponse.
Ah bah félicitations.
Merci.
Je croise les doigts pour toi.
Merci. Bon après-midi.
Oui, à plus tard.
À plus tard.
Je suis le docteur Zina Bensala, j'ai 32 ans, je suis cardiologue et je viens de Tunisie. J'ai débarqué en France il y a 2 ans et je suis originaire d'une petite ville en Tunisie, dans le sud tunisien, qui s'appelle Touzeur, qui est une ville qui est connue pour être la porte d'entrée du Sahara, puisque juste derrière commence le désert tunisien. J'ai quitté ma région natale, qui est Touzeur, après mon baccalauréat pour aller faire mes études à la faculté de médecine du Tunis au milieu des années 2030. Là d'où je venais, Touzeur, c'était connu pour avoir de nombreuses oasis très célèbres. Mais avec les années, le changement climatique, la désertification, c'était devenu pénible d'y vivre. C'était insupportable et il y avait une crise économique et sociale qui faisait que tout le monde partait. Donc même ma famille avait quitté Touzeur et on s'est retrouvés tous à aller vers la capitale. Après la fin de mes études, quand j'étais cardiologue, j'ai pris une énorme décision qui n'était pas facile. J'ai beaucoup réfléchi, mais après réflexion, j'ai dû partir, quitter la Tunisie et aller en France. J'ai atterri à Paris le 18 juillet 2048, le jour de mes 30 ans. À Paris, j'ai été prise en charge par le SPOM, c'est le service public d'orientation des personnes migrantes. Et c'est eux qui m'ont orientée vers l'équipe médicale, là où j'ai été adressée, à la ville de Troyes. Quand je suis arrivée à Troyes, je ne savais pas que ça se prononçait comme ça, je disais Troyes. Et c'est après quelques jours que les gens n'osaient pas, mais ils ont fini par me corriger, bah non, c'est Troyes. Le problème quand je suis arrivée en France, c'est que mon diplôme n'était pas européen. Du coup, heureusement, on m'a expliqué, justement, le SPOM m'a entourée, m'a conseillée et j'ai rempli tout ce qu'il fallait comme administratif pour demander l'inscription à l'Ordre des médecins en France. Ça a été plutôt très très facile par rapport à ce qu'ont connu auparavant mes autres collègues. En seulement 2 ans, alors que je travaillais au sein d'une équipe médicale de cardiologie, où j'étais payée comme les autres Français, j'ai pu prouver mes connaissances, prouver que je pouvais communiquer bien avec les patients et prendre en charge comme il faut les patients. Et au bout de ces 2 ans, j'ai passé il y a justement 2 semaines un examen écrit pour valider mes connaissances théoriques. Et là, normalement, dans le mois qui suit, le jury va valider ou pas le fait que je puisse être inscrite à l'ordre des médecins et travailler en toute égalité par rapport à mes autres pairs collègues en France. Je me rends compte que c'est énormément de changements quand on pense à ce qui a été écrit dans les années 2000 ou les années 1980, où il y avait des fois des gens qui travaillaient pendant 10 ans, 15 ans à être vraiment soupillés le SMIC pour pouvoir valider leurs connaissances. Je me dis là, c'est beaucoup plus égalitaire. Surtout, c'est comme ça qu'on lutte contre les déserts médicaux. Avec la réduction du temps de travail, j'ai pu avoir du temps pour faire un peu ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et c'est grâce à une association qui s'appelle Réseau Demain Solidarité que j'ai pu avoir l'opportunité d'aller prendre en charge, soigner et entourer des personnes âgées qui vivaient seules et les accompagner au moins 2 jours par semaine dans leur quotidien. Quand j'ai appris qu'il y avait 2-3 personnes de l'association qui gagner de l'argent au travers du travail bénévole que je faisais pour m'occuper des personnes âgées, ça m'a absolument choquée et un peu dégoûtée initialement. Je me suis dit, mais est-ce que ça vaut le coup de continuer? Mais il faut quand même continuer, j'ai quand même continué parce que je me dis, ces 2-3 personnes, ils vont être jugées, justement grâce à la lanceuse d'alerte, et que nos autres, il faut qu'on continue. Parce que c'est un travail auquel je crois absolument, l'entraide sociale, que ceux qui peuvent aident les autres et que c'est comme ça que la société s'en sortira. Pour ma part, je vais bientôt être titularisée d'ici peu et je voudrais rester à Troyes, là où j'ai vécu ces 2 dernières années, car je me suis vraiment intégrée dans l'équipe médicale, dans aussi la population générale. J'ai commencé à trouver mes repères et puis c'est là où je me sens utile.
Mathias Travers, je suis né en 2007, donc 43 ans déjà, et donc je viens de Troyes, dans l'Aube, et j'ai toujours vécu ici. J'y suis né, j'y ai grandi, et j'y suis resté. Je suis ingénieur en informatique embarquée, pour être plus précis, donc je rassemble à la fois du hardware, du matériel, et puis donc du software, du micro-logiciel pour les faire fonctionner. Et c'est juste l'évolution d'une passion qui m'a pris tout petit. On aurait pu jouer au Lego, moi je jouais avec des composants et je reconstituais, je ne sais pas si vous vous souvenez, des Raspberry. Là on est dans les années 2020, hein, donc j'étais pas très grand. Mais voilà, comme des Lego, je faisais des ordi. J'appartiens à la génération qu'on appelle les millennials. Ce qui fait que moi quand je suis né, on était vraiment pleinement installés dans l'univers du tout électronique. C'était vraiment la course à l'échalote, il fallait mettre des écrans là où il n'y en avait pas besoin. Et aujourd'hui, la raréfaction des ressources, les composants sont plus difficiles à trouver, donc on a arrêté un peu avec tout ça. Oui. J'ai terminé mon école d'ingénieur au début des années 2030, et puis à la sortie de l'école, j'ai trouvé un métier qui correspondait vraiment à ce que j'aimais faire, et dans une entreprise vraiment technique. Mais au fur et à mesure, à la fois que le temps passait, que les métiers changeaient, et puis entre guillemets une progression dans l'entreprise, je suis devenu finalement plus commercial et manager que technicien. Et c'est là que le potager a commencé, au début pour compenser ce que je perdais comme sens dans mon travail. Et puis c'est là où j'ai réalisé beaucoup de choses par rapport à, ça fait un peu carte postale, mais le retour à la nature et produire des choses concrètes qui ont du sens et qui profitent à tout le monde. Ce potager coopératif, associatif, on est avec le temps une bonne 30aine maintenant, donc un terrain vraiment important qui a été mis à disposition, et on produit en fonction des saisons tout ce qu'on peut, et on partage nous-mêmes le fruit de nos récoltes, au sens propre et au sens figuré. Et ça aussi, ça donne du sens à ce qu'on fait. Un peu comme les jardins ouvriers d'autrefois, on n'est pas à la campagne. Alors, on n'est pas non plus dans la mégapole, mais voilà, on est à proximité de Troyes, donc on est vraiment au milieu quasi urbain et on exploite des terres qui n'étaient plus exploitées depuis longtemps. Ça, par exemple, ce sont des tomates. Alors, c'est un croisement entre plusieurs variétés relativement anciennes et qui étaient plutôt adaptées au climat et au sol du coin. Alors on a fait des essais, hein, assez souvent infructueux, mais on a fini par trouver quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Et donc c'est sympa d'avoir des tomates, pas en toute saison, mais en tout cas printemps-été sur Troyes. Voilà. Et pour en revenir au travail, l'évolution ultime du métier et du poste, hein, ça a été l'automatisation avec tout un tas de briques IA qui ont été déployées dans l'entreprise. Et à l'occasion d'un plan de licenciement, j'ai décidé de quitter l'entreprise. Et une fois parti, c'est là que j'ai réalisé que j'avais quitté un bullshit job, un job à la con, comme on dit. Et que finalement, ce bullshit job a été complètement automatisé avec de l'IA. Et c'est là que j'ai rejoint Réseau Demain Solidarité, dans le secteur de l'upcycling, donc la valorisation, le surcyclage, la revalorisation de vieux matériels et vieux logiciels. Alors c'est une association qui fait beaucoup de choses, mais moi je suis venu sur cette partie-là précisément. Par exemple, tout récemment, on a récupéré une centaine de PC en panne, et on a réussi à en refaire une trentaine fonctionnelles. Alors je travaille avec en partie des salariés de l'association, en partie des bénévoles. Certains sont des locaux, d'autres sont devenus des locaux, ils sont migrants, climatiques ou autres. Et quelques déplacés internes au pays, certains climatiques là aussi, mais pas tous. Et ce qu'on fait me tient vraiment à cœur, hein. J'y trouve vraiment du sens dans ce travail, et je me suis donc inspiré de l'expérience du potager, que je continue en parallèle, pour proposer un fonctionnement du travail auquel participent les travailleurs. Donc un fonctionnement plus démocratique, un fonctionnement alternatif. Mais à ma grande surprise, j'ai vraiment été surpris par ça, il y a trois personnes à la tête de Réseau Demain Solidarité qui se sont farouchement opposées à cette alternative et à ce projet. Pourtant, c'est vraiment pas l'esprit de l'association. Mais bon, quand j'ai appris que c'était les mêmes qui se faisaient beaucoup d'argent sur le dos des bénévoles, finalement, je n'ai plus été vraiment surpris. Mais je vais continuer de me battre pour ce projet. Aujourd'hui, on a ce droit d'alternative qui est reconnu. Donc en tant que chef d'atelier, je vais le présenter aux salariés et je suis sûr qu'ensemble, on va réussir à l'emporter. Assemblée générale de notre atelier Upcycling. C'est une assemblée que j'ai convoquée pour l'ensemble de toutes celles et tous ceux qui travaillent ici, qu'ils soient salariés ou bénévoles de l'association. Et tout le monde a répondu présent. Le sujet est important, le sujet est grave et on a besoin de décider en commun. Il faut bien se rappeler que le droit d'alternative, à l'heure où on parle, est vraiment ancré dans la vie concrète de tous les jours. C'est vraiment une réalité, quelque chose dont on peut s'emparer et exercer. Et le fait d'avoir trois margoulins à la tête de l'association, ça ne doit pas nous empêcher de nous emparer de ce droit, de l'exercer, d'utiliser, de proposer une alternative et de remplacer une gouvernance inappropriée par une gouvernance qui est dans le sens et la vocation de l'association. Et éviter la marchandisation de notre travail. Ce qui se joue là, c'est vraiment l'idée de la démocratie au travail.
« 2050 au boulot », un documentaire fictif de Clément Olivier, produit par l'UGIC de CGT, écrit avec Ranja Kanouni, Agathe Leberder et Caroline Blanchot, coordination Ranja Kanouni, réalisation Clément Olivier, Stéphane Dujardin. Merci à Amina Rabia, Zor Rezine et Mathieu Trubert qui nous ont confié leur voix et leur sourire.